J'ai mis pas le son de sortie, c'est la pause à midi. C'est ludique, les jeux c'est magique.
Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Ludique, les amis. Au programme de ce mardi, d'ici quelques instants, on retrouvera Jonathan du magasin Terre de Jeux à Rennes pour quoi de neuf dans la boutique, et puis il nous donnera aussi ses coups de cœur de Cannes. Mais tout de suite, on va commencer avec un petit jeu d'ambiance, un jeu que vous connaissez certainement mais qui revient dans une nouvelle version. Alors au menu aujourd'hui, donc, c'est That's Not a Hat Incognito, un jeu de Casper Lapp et de Johan Servet pour 3 à 8 joueurs à partir de 12 ans, édité par Ravensburger. Alors vous connaissez certainement That's Not a Hat, un jeu qui avait été d'ailleurs nommé à l'As d'Or. On reprend la même chose, mais on la complique. Fini les cadeaux, désormais vous êtes des personnages et vous voulez passer incognito. En gros, il va falloir deviner qui est qui. Alors au niveau de la mise en place, c'est très simple. Vous avez un paquet de cartes, face, dessin, thématique visible, et tous les joueurs ont une carte devant eux. Sur tous les dessins, vous avez un cône de chantier dans une situation ou même intégré au dessin. Le cône peut être à l'envers avec une flamme, ça représente donc la flamme olympique. Du coup, il faudra choisir un personnage en rapport avec ce thème. Mais alors, comment on joue? Eh bien, le premier joueur va prendre une deuxième carte qu'il pose au-dessus de la carte déjà posée. Dans That's Not a Hat Incognito, on ne fait plus de cadeaux, hein, que vous acceptez ou pas, on va dire « Salut, je suis ». Vous pouvez vous présenter sous le nom de n'importe quel personnage auquel vous fait penser le dessin. Il peut s'agir aussi bien d'un personnage réel, fictif, mais ça peut être aussi votre tonton. Pourquoi pas? Il faut juste un rapport entre la personne et la thématique de la carte. La deuxième carte qu'il vient de prendre, après l'avoir montrée à tous les joueurs, par exemple c'est un cône avec une couronne, il va donc la retourner. Tout le monde l'a vu maintenant, elle est cachée sur le verso de la carte. Vous avez une flèche qui indique à quel voisin vous allez donner cette carte, soit à celui de gauche, soit à celui de droite. Alors au début c'est facile car forcément on vient de voir le personnage, on va lui dire tiens, je suis Louis XVI par rapport au cône avec la couronne. Votre voisin va décider d'accepter la carte ou la refuser. S'il l'accepte, il ne retourne surtout pas la carte, il la laisse face cachée et la place au-dessus de son premier personnage. Il a désormais devant lui deux personnages, il va à son tour donner le premier personnage qu'il a reçu, pour ça il le retourne et fait de même au voisin à gauche ou à droite selon la flèche indiquée. Chose importante, dans That's Not a Hat Incognito, on ne donne jamais le personnage que l'on vient de recevoir, sinon ça serait un petit peu trop facile. Alors la personne qui va recevoir la carte va à son tour faire pareil et se présenter en disant « Je suis Louis XVI », mais si elle veut, elle peut dire aussi « Je suis Charles III », car il a une couronne, et donner à gauche ou à droite. À partir d'un moment où toutes les cartes sont retournées face cachée, et là c'est forcément, ça devient beaucoup plus compliqué, il va falloir avoir une très très bonne mémoire. Et pas forcément une mémoire classique comme au memory, il faut se souvenir du placement de la carte, parce que dans That's Not a Hat Incognito, la carte va changer et va tourner. Vous allez voir, c'est pas si évident que ça. Si vous acceptez la carte, il se peut que celle que vous avez devant vous désormais ne soit pas le bon personnage, mais ça vous ne le savez pas. Vous avez donc le choix de refuser la carte. En gros, tu es bien gentil, tu me dis que tu es Charles III, mais je sais très bien que tu n'es pas cette personne et que ce n'est pas la carte avec la couronne. Si je refuse le personnage, dans ce cas je retourne la carte. Si c'était bien un bon personnage qui correspond aux critères incognito, je récupère la carte que je pose devant moi, face visible dans ma défausse. En revanche, si le personnage donné en rapport avec la thématique n'était pas le bon, c'est celui qui me l'a donné qui récupère la carte et le place dans sa défausse, ce qui est logique. Le joueur qui récupère le personnage incognito en pioche un nouveau, qu'il montre à tout le monde, puis le retourne et le propose au joueur de droite ou de gauche selon la flèche sur la carte. Le nouveau personnage incognito est toujours celui qui est donné. À partir du troisième personnage incognito dans sa défausse, dans la défausse d'un joueur, la partie s'arrête et le ou les joueurs qui ont le moins de cartes dans leur défausse sont les gagnants de That's Not a Hat Incognito. Il existe une variante où il faudra changer le nom à chaque fois, mais toujours avec le critère. Par exemple, on peut dire « Je suis Louis XVI » et le prochain peut dire « Je suis Charles III » et un autre devra dire « Je suis le Roi Lion » puis un autre « Papy Raymond ». Alors pourquoi Papy Raymond, vous allez me dire? Parce qu'il a eu la couronne lors de la dernière galette des rois, dont ça fonctionne aussi, il a été roi. Alors s'il y avait le critère moustache et que Papy Raymond a aussi une moustache, ça marche, au moins vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Ce que j'en pense de That's Not a Hat Incognito, c'est un jeu d'ambiance qui se joue 2, 3, 8 joueurs, mais plus on est nombreux et plus il y aura de fou rire autour de la table. Déjà la version classique n'était pas évidente, mais alors là c'est de plus en plus compliqué. Surtout si vous jouez avec la variante, clairement il faut avoir une bonne mémoire, le problème c'est que l'on oublie rapidement. Mais n'oubliez pas aussi de bluffer et faites croire que vous savez, même si vous ne savez pas. Voilà, ça s'appelle That's Not a Hat Incognito et c'est sorti il y a quelques semaines chez Ravensburger. Allez, d'ici quelques instants, on va retrouver Jonathan du magasin Terre de Jeux à Rennes. C'est juste après Marine avec Ma Faute.
Ton verre est plein, est-ce encore de ma faute? Si tu le vides, ce le sera sans faute. J'ai trébuché sous le poids de tes mots, mais relevé, tout ne sonne pas si faux. C'est faux. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. C'est bien ma faute, ma faute. La nuit est calme, sans le son de ta voix. Si tu la hausses, ce ne sera que sur moi. Je reste seule, assise avec mes larmes. Celle qui reste, après tout le vacarme. C'est bien ma faute. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Parfois je ne te reconnais même pas. J'entends le bruit sans entendre ta voix. Tu vois, je t'aime malgré tout ça. Maintenant je sais que c'est pas moi. Pourtant je suis tombée si bas. Avec toi je ne m'aimais pas. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Ma faute. Crier à l'aide, à perdre haleine. Tu m'as dit c'est ta faute. Crier à l'aide. Crier à l'aide, à perdre haleine. Tu m'as dit c'est ta faute. Tu m'as fait perdre celle que je pensais si forte. Mais l'averse est passée quand j'ai claqué la porte. Sans toi, beaux jours reviennent. Ce sera plus jamais ma faute.
C'est la pause déjeuner. C'est ludique, quoi de neuf dans la boutique.
Et comme tous les mardis, on retrouve Jonathan du magasin Terre de Jeux à Rennes pour Quoi de neuf dans la boutique. Salut Jonathan!
Salut Mathieu, salut à tous.
Alors, quoi de neuf dans la boutique, mais quoi de neuf surtout au Festival de Cannes, parce que je suppose que tu as découvert pas mal de choses là-bas.
Ouais, effectivement Mathieu, bah oui, comme toi, on a vu un paquet de trucs, je saurais même pas les dénombrer, les centaines de jeux qu'on a consultés là pendant toutes ces journées passées à Cannes. Effectivement, il y a plein de chouettes trucs. Je pense comme beaucoup, moi j'ai eu le sentiment de plein de très bons jeux.
Ouais.
Peut-être plus que d'habitude même.
D'accord.
Peut-être un peu moins d'énormes coups de cœur. Je pense que moi, c'est un peu le truc qui m'a manqué à Cannes. Moins d'effets waouh comme j'avais pu avoir l'année dernière avec Sink or Swim ou Daybreak.
D'accord.
Mais plein de jeux, je pense, qui vont facilement rencontrer leur public et amuser beaucoup de gens.
Est-ce que tu as remarqué quand même que cette année, c'était, il y a eu les années où c'était que des petits jeux, les jeux de pli, les jeux coopératifs. Cette année, c'était vraiment une année de joueurs, non ?
C'était, ouais, carrément, c'était l'année de joueurs. Ça reste quand même les petites boîtes, hein, beaucoup. On sent que les grosses boîtes, ça fait peur. Donc beaucoup de petits jeux et beaucoup de jeux à deux joueurs, effectivement. Beaucoup de jeux de cartes. On reste sur cette tendance-là.
Bah, on trouve finalement les jeux qui ont été développés par les auteurs pendant le confinement aussi.
Oui, c'est possible, ouais, carrément. Au vu de la période, ouais, c'est aussi... Après, c'est vrai que nous, on n'est pas surpris de voir beaucoup de propositions de jeux de joueurs, parce qu'on a énormément de demandes en boutique,
ouais,
de jeux pour deux joueurs. Ça devient vraiment même compliqué pour nous de vendre un jeu qui ne marche pas à deux joueurs.
Ouais, d'accord.
Voilà, si on peut proposer un jeu qui correspond totalement au goût de la personne qui est en face de nous, la personne est convaincue, elle fait mais ça ne se joue pas à deux joueurs. et donc on va devoir conseiller autre chose. Et ça arrive de plus en plus fréquemment.
Alors comment s'est passé ton Cannes cette année, Jonathan ?
Eh ben plutôt pas mal. Quelques petites mésaventures pour le transport, mais j'ai réussi à arriver à Cannes quand même.
D'accord.
Et non, après, bah, très bien organisé, on a pu voir tout ce qu'on voulait voir. Donc nous, on y va, moi j'y vais avec deux collègues du coup à Cannes.
Ouais.
Donc on fait pas mal de, on va voir pas mal de nos fournisseurs ensemble, et puis des fois on se dispatche un peu à droite à gauche pour être un peu plus efficace, et puis on fait le point à la fin.
Ouais, pour essayer de voir tout le monde quoi.
Bah ouais, on essaye de faire un état des lieux de tout ce qui va sortir sur l'année. Donc ça demande pas mal de temps. C'est vrai qu'avant je le faisais un petit peu seul, mais c'est devenu trop chronophage, trop compliqué en quelques jours de voir tout.
Ouais.
Maintenant on y va à plusieurs.
Et quand t'arrives chez Asmodée, t'as 40 jeux à voir, donc forcément c'est un peu plus compliqué.
Il y a des fournisseurs chez qui ouais, ça devient vraiment impressionnant. Ouais. Ouais, Asmodée, BlackRock, Gigamic, c'est une quantité de jeux industriels.
Alors, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué un petit peu ? Après, avant de me donner tes trois coups de cœur, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui t'ont marqué, que tu te dis, ah bah ça, ouais, c'est plutôt sympa ?
Alors, et bah du coup, je pense que les choses qui m'ont marqué, c'est quand même mes coups de cœur.
D'accord.
Il y avait pas mal de petits trucs. Après, il y a beaucoup de choses, moi, que j'ai trouvé génial, mais que j'avais déjà vu à Vichy.
D'accord, ouais.
Je pense notamment à Kelp. Oui. Ce jeu là de chasse et de track,
ouais,
entre un poulpe et un requin, Flatiron aussi,
oui,
ouais, que j'ai pu regarder d'un peu plus près, jeu à deux joueurs, pas forcément très long, on va dans un format Seven Wonders Duel de gestion, mais un petit peu plus de tête, donc Flatiron j'ai regardé de plus près, ouais, c'est très chouette. Non voilà, et après non oui j'ai eu Il y a deux jeux principalement qui m'ont beaucoup marqué.
D'accord.
Le premier c'est Agent Avenue.
Ah bah oui.
Ouais. Bah je pense que je suis pas le seul. Hein, le seul de Christian Cudal et Laura Cudal. Alors j'en avais entendu parler, mais j'avais pas du tout regardé ce que c'était avant.
Ouais.
Et je comprends l'engouement autour du jeu.
Ouais.
Agent Avenue, là, jeu deux joueurs de bluff. Alors nous c'est une demande en plus qu'on a beaucoup en boutique de gens qui jouent beaucoup à des jeux de bluff à plusieurs et qui ne comprennent pas pourquoi il y en a pas à deux joueurs. Et ben maintenant ce sera chose faite. Alors il y avait deux trois petites choses qui se faisaient, mais là on est vraiment sur quelque chose de très accessible avec Agent Avenue, de très drôle. Ce principe de je vais proposer deux cartes à mon adversaire, une cachée, une visible, il en choisit une, joue l'autre, c'est excellent.
Ouais.
Je dois être
à une dizaine de parties déjà depuis le retour de Cannes. C'est un des jeux préférés de mon fils. Hein, donc voilà, il a
fond. Ça ne me surprend pas, ouais, ça va plaire à beaucoup de monde. On a même pris le temps, alors c'est un jeu je pense qui a été spécialement conçu pour deux joueurs, mais de jouer à la variante à quatre joueurs.
Ah oui.
Alors c'est pas aussi efficace, mais ça reste quand même pas mal drôle. Nous on s'est bien marré à y jouer à quatre.
D'ailleurs je sais pas si t'as remarqué, mais sur la boîte un yellow marque deux joueurs, hein, marque pas deux quatre joueurs.
Ouais, bah ça c'est oui c'est chouette. Je pense que
c'est vraiment une variante.
La promesse, elle est vraiment là sur le deux joueurs, carrément.
Ouais. Et puis quand tu retournes le plateau, bah du coup tu as des petites choses en plus qui changent un petit peu les règles du jeu.
Ouais, effectivement, ouais, on a regardé la variante. Alors moi, ce qui m'a bluffé, c'est vraiment l'efficacité du jeu de base. Quoi.
Oui.
C'est épuré, il y a rien de trop et ça va à l'essentiel et c'est
ça joue rapidement et tout. C'est pratique, quoi. C'est vraiment top.
Alors l'autre c'est quasiment un mensonge, mais je pense que mon jeu préféré de Cannes c'est Tech Time de Alexis Poivezon et
c'est
Julien Trottière.
C'est le mien préféré, c'est mon jeu préféré de Cannes, Tech Time.
Bah moi ça reste à confirmer en fait, parce que j'ai pas eu trop le temps de le voir à Cannes.
Ah oui.
Mais j'avais joué au prototype, je dirais, il y a 6 mois. Et ça m'avait vachement plu. Alors bon, moi tu connais mes goûts, hein, c'est bah totalement oui. le genre de jeu que j'adore.
Coopératif et tout. Moi ça m'étonne que ça soit mon jeu préféré hein, d'ailleurs, hein, ça m'étonne.
Bah oui, mais... je m'attendais pas à ça de toi.
Mais franchement, on en a fait une partie, on a fait toute la première enveloppe. Donc franchement, on a vraiment passé un bon moment parce que tu réfléchis aux cartes que tu vas mettre pour être bon au niveau du total par rapport aux heures quoi. Et franchement, non, c'est top Tech Time. Hein. Et puis en plus, la DA est vraiment magnifique. J'ai plus son nom. Chez Libellude.
Alors j'ai Maud Chalmel moi dans.
Ouais, alors Maud Chalmel, c'est l'illustratrice, mais toute la DA,
la direction artistique de la personne, de la dame qui
Maeva da Silva.
Voilà,
Maeva da Silva, c'est magnifique, franchement, ce qu'elle avait fait. Top.
Alors moi j'ai juste eu le temps de passer devant la couverture du jeu et c'est vrai que ça te fait un effet waouh. Mm. Moi, on est dans l'esprit de ces couves que j'aime bien, là, à la Azul,
ouais.
À la Solenia. Mais c'est vrai que celle-ci est redoutablement efficace. C'est intriguant, ça donne envie d'y jouer. Moi, il faudrait que je me remette un peu ça en tête, Tech Time, mais j'en ai un excellent souvenir. Déjà, quand j'avais joué avec des bouts de papier en noir et blanc, j'avais trouvé ça génial. Mmh. Et je me dis, si même des gens comme toi, Mathieu, qui n'ont pas une appétence comme
mais
la mienne pour le jeu coopératif sont attirés,
ouais.
Ça sent le jeu qui va plaire et qui va rencontrer un succès.
Clairement. On a eu la chance de voir les enveloppes et tout. C'est vraiment magnifique quoi, et on a fait toute la première enveloppe, c'est top. Il y a des règles qui changent. Alors, on peut pas dire beaucoup de choses hein, parce que c'est sous embargo. Hein. Alors c'est sous embargo, mais c'était quand même disponible à l'espace Asmodée au public.
Oui, alors j'ai eu le même discours aussi, j'ai pas tout compris.
Donc voilà. Mais non, mais ce qui était disponible, c'est il y avait pas tout qui était disponible hein, au niveau de l'espace. Voilà.
Bah oui, effectivement, je pense qu'il faut garder aussi un peu de surprise pour les joueurs. Oui,
parce que ça sortira qu'au mois d'octobre, hein, donc il va falloir encore patienter un petit peu.
Il va falloir être patient, très bien.
Autre
et après,
jeu.
J'étais agréablement surpris, j'étais un petit peu dubitatif au début, de Ink de Casper Lapp.
Ouais.
Je sais pas si t'as vu ça, c'est une couve aussi qui est assez intrigante, là, la coupe.
Les pots de peinture.
C'est une couve toute blanche avec de l'aquarelle, comme une sorte de fumée d'aquarelle sur la boîte, c'est assez joli et intriguant aussi. On est sur un jeu, on sent en termes de visuel qu'on essaye de surfer sur le succès d'Azul encore une fois. On a vraiment un visuel très accrocheur avec plein de pions en plastique translucide dans la boîte. J'ai quand même regardé d'un peu plus près parce que Casper Lapp, pour moi, c'est un grand auteur de jeu, c'est l'auteur de Magic Maze. Alors là, pour le coup, rien à voir parce qu'on est sur un jeu chacun pour soi de pose de tuiles dans son coin.
Ouais.
À chaque tour, on va récupérer une tuile parmi six sur le plateau et la rajouter à notre tableau. Comme dans Dorf Romantik, pour ceux qui connaissent, c'est le même principe. On va avoir des tuiles avec des objectifs dessus qui disent, par exemple, fais une zone de 6 cases violettes et t'as validé l'objectif. Et donc, on va essayer d'agencer tout ça comme il faut. Ce qui est chouette, c'est que t'essayes d'agencer tes tuiles de manière à réussir à valider plusieurs objectifs d'un coup. Donc ça, c'est assez grisant d'essayer de tout faire correspondre ensemble. T'as un système de récupération des tuiles qui est assez malin, parce qu'à ton tour, tu récupères n'importe quelle tuile, mais plus tu vas loin, plus tu avances dans le jeu, et à chaque fois que tu fais des rotations complètes dans le marché de tuiles, tu vas récupérer des malus.
D'accord.
Donc il y a une sorte de timing là-dessus qui est assez malin. Alors je sors des gros mots, pour moi en plus, il va y avoir le côté un peu draft contre draft, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux prendre. Mais oula, cette tuile-là, faut pas que je la laisse à mon adversaire, il va se gaver.
Ouais.
Donc des fois, tu vas faire des grands bonds pour aller chercher ça, quitte à prendre un malus. Et l'idée, donc, c'est de valider un maximum d'objectifs pour remplir son tableau de petites bouteilles d'encre. Ça rappellera Nova Luna du V. Rosenberg, pour ceux qui connaissent.
Mm-hmm.
On a cette sensation de combo qui est assez plaisante sur un jeu abstrait. Et à chaque fois qu'on valide un bonus, on va faire un petit pouvoir immédiat. Qui sera plus ou moins puissant en fonction de la grandeur de l'objectif qu'on valide. Et là, il y a un petit côté chouette, un peu à la charlatan de Belcassel, où ses pouvoirs changent à chaque partie. On crée un tableau de 4 pouvoirs en début de partie, il y en a plein la boîte. Donc ça crée des dynamiques de jeu différentes à chaque fois.
Donc ça, c'est Ink, c'est le nouveau studio de Sophie Gravel, hein, si je dis pas de bêtises. Du coup,
c'est ça, ouais, c'est comme ça qu'on nous l'a présenté d'entrée de jeu.
Donc en gros, ça sera vendu bientôt à Asmodée.
Oui, c'est la blague qu'on nous a fait assez rapidement.
Ah, oui. Donc Ink, est-ce que tu as encore des coups de cœur?
Eh ben non, je me suis arrêté là pour mes coups de cœur. Après, il y avait pas mal de choses qui n'ont plus... alors, je pense un petit peu comme tout le monde, il y a Présage de Maxime Rambourg.
Voilà.
C'est vrai que tu joues à Présage, c'est super efficace. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur un petit jeu de cartes. C'est chouette dans son côté minimaliste. C'est-à-dire que tu n'as que 4 cartes en main. Et le but, c'est d'en avoir plus qu'une. On va jouer par binôme. Ouais. Donc, tu peux essayer de gagner toi ou d'essayer de sentir que ton partenaire, là, il est bien parti pour gagner.
Ouais.
Donc, tu vas plutôt essayer de jouer pour le faire gagner lui. Et dès qu'une équipe valide 2 points, c'est gagné. Le principe est tout simple. On joue tous une carte. Celui qui a joué la plus forte s'en débarrasse. Ça les marche. Autres piochent. Donc là, premier truc malin, les autres piochent pas, mais reprennent leur carte en main. Donc, tu as vu leur carte. Tu sais ce qu'ils ont. Tu sais ce qu'ils peuvent jouer. Donc, tu vas réfléchir à ça. Et après, l'idée, c'est qu'il y a 36 cartes dans la boîte qui ont tout un effet différent. Les effets sont compréhensibles d'entrée de jeu, donc ça, c'est assez fort. Tu joues une carte, tu comprends tout de suite ce qu'elle fait. Et les effets sont malins, sont très plaisants, fun, créent de l'interaction, soit de l'interaction pour embêter les autres, soit de l'interaction pour aider son partenaire.
Ah ouais, ça marche très très bien, Présage. Ça fait partie aussi de mes coups de cœur avec Take Time et puis un autre qui s'appelle Toy Battle qu'on n'a pas encore parlé, Jonathan.
Ah oui, Toy Battle, ouais. Alors moi, c'est moins ma cam, mais oui, je pense que ça va cartonner.
Franchement, ça va cartonner. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Est-ce que tu as d'autres choses que tu as vues qui t'ont plu sur le festival? Il y a un jeu quand même qui m'étonne que tu ne me l'aies pas dit, toi qui es fan des jeux coopératifs.
Alors, dis-moi tout, j'ai peut-être loupé quelque chose.
C'est Rituel. Tu n'as pas vu Rituel?
Non, j'ai pas vu ça.
Chez Paladis Game.
Rituel?
Ouais, c'est chez Paladis Game, chez Néoludis. Et c'est un jeu où tu ne peux pas parler et tu vas te distribuer, tu vas passer des pierres à l'autre pour essayer de faire ta combinaison, mais tu ne parles pas, il y a un chrono et tout, quoi.
Ouais, je l'ai vu.
Ça y est, tu l'as vu.
Alors, nos présentations de jeux ne se valent pas toutes.
Ah.
Et du coup, Rituel, c'est un jeu qu'on a laissé dans notre liste pour dire il faudra aller lire les règles.
Ah, d'accord.
Ça avait l'air chouette, ouais. Mais la présentation n'était pas suffisante pour dire que c'était un bon jeu.
Ouais, voilà. Donc, je pense que ça fera partie de tes coups de cœur de cette année.
Ouais, et bah carrément, oui, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on regarde ça. Et après, s'il y a une grosse bêtise qui nous a bien plu.
Ah, je vois ce que c'est.
Tu vois ce que c'est, qui nous a un peu empêché de dormir la nuit la nuit, dans notre sommeil, on était à Mitsukatsu. Donc ça, ouais, grosse bêtise, ça demande de jeux coopératifs, bien évidemment, parce que c'est plus drôle. On doit faire des bêtises de manière coordonnée tous ensemble, en répétant en permanence Mitsukatsu, hein, qui est le nom du jeu en allemand, qu'ils ont la bonne idée de le garder en français,
oui,
parce que
c'est vrai
que ça sonne très bien. Ça rappelle un peu Rhythm and Bullet. Voilà, il y a une sorte de joueur qui va donner le rythme, plus ou moins rapide, en lançant le Mitsukatsu. Et après, on va avoir une carte qui nous demande de faire quelque chose. Par exemple, de passer notre souris à notre voisin tous en même temps, de taper dans nos mains, de dire quelque chose. Et plus on avance dans le jeu, plus on rajoute des cartes. On doit faire des sortes de boucles, donc de revenir au début plusieurs fois et de recommencer. Ça paraît facile comme ça, mais c'est pas évident de se coordonner bien tous ensemble. Et c'est très drôle à jouer. Et très drôle à regarder aussi.
Ouais. Ah non, c'est. Mais c'était pas très drôle, hein, je l'ai déjà dit hier, mais c'était pas très drôle pour les éditeurs qui expliquaient d'autres raids à côté. C'était compliqué pour eux.
Je pense qu'il y avait des stands où ça devait être très fatigant d'y travailler.
Ah oui, je pense.
Celui-ci en premier. Et en même temps, je pense que tu dois être tellement content de voir ce que ça crée des attroupements. Donc
c'est sûr.
Tu dois voir que le jeu attire les regards, tout le monde rigole.
Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont déçu ou tu t'attendais, tu te dis ah ouais, non, finalement je m'attendais à mieux pour ça Voilà,
et
les amis, c'est ludique, c'est terminé.
Non,
on se retrouve demain pour un nouveau numéro.
Passez
une excellente journée sur Medium. Et puis moi, je vous retrouve bien entendu avec Greg dès 7h pour Miltonic. Salut.
Je pense que je tombe de moins en moins sur des jeux où je me dis ah, c'est dommage ou ah, c'est pas totalement réussi. J'ai l'impression que ça va de plus en plus au bout des choses. Et donc non, pas de déception.
Alors dans les prochains jours, qu'est-ce qui arrive en boutique et que tu attends, parce qu'on a parlé de Tech Time bien sûr, mais ça arrive pas tout de suite. Est-ce qu'il y a des jeux là que tu attends là de courant mars?
Alors on a eu une nouvelle exceptionnelle. Alors ça vient d'arriver en boutique.
D'accord.
Voilà, alors c'est le juste, hein, au cas où, si tu ne connais pas, il s'agit du plus grand jeu d'ambiance de tous les temps.
Ah.
Qui vient de revenir en stock.
D'accord.
Je n'y croyais pas, hein, je ne pensais pas que ça reviendrait. C'est longueur d'onde.
Ah, longueur d'onde. Ah ouais, exact.
Longueur d'onde qui revient d'outre-tombe. Donc c'est un jeu d'Alex Hage, Justin Vickers et Wolfgang Barsch.
C'est top ça.
Toi, tu as joué à longueur d'onde.
Ouais.
Alors c'est la blague, hein. Moi c'est vraiment le jeu, voilà, si j'ai envie de me marrer, pour moi c'est mon top absolu. J'aime beaucoup Top Ten aussi, hein, comme tout le monde. Mais longueur d'onde, c'est, je pense, indescriptible comme ça, la radio.
Oui, c'est compliqué.
Un objet très bizarre, c'est une roue que tu vas faire tourner, qui va te donner une cible que tu vas cacher, et t'essaies de faire deviner cette cible aux autres joueurs. Faut imaginer que c'est une sorte d'échelle, donc ça évoque The Mind, ça évoque Top Ten. Tu vas tirer une carte qui va te définir l'échelle, par exemple de quelque chose de très bon à quelque chose de très mauvais.
Ouais.
Et toi, tu dois faire deviner où est ta cible sur cette échelle, du truc le plus mauvais de l'histoire de l'humanité au truc le meilleur, et tu vas dire ce que tu veux. Le propos du jeu, c'est que les autres joueurs vont débattre pour essayer de deviner où est ta cible. Et ça crée des débats. Alors, si t'es avec les bons joueurs et les bonnes joueuses, ça peut partir totalement en live, discuter sur des choses totalement, totalement débiles pendant des heures. Et c'est vraiment brillant dans ce que ça propose comme rigolade et d'interaction et de discussion entre les joueurs.
Je l'avais présenté il y a quelques années, je ne sais plus quand est-ce que c'était, hein, que c'était sorti, mais donc vous tapez longueur d'onde normalement sur le site internet et vous allez retrouver la présentation du jeu.
Et après, ce petit truc chouette nous qu'on a trouvé vraiment bien pensé, c'est Dungeon Legends qui vient de sortir aussi. Alors, je serais bien incapable de prononcer le nom de l'auteur. Je pense que c'est un nom Europe de l'Est, peut-être de Pologne. Non, je pourrais pas. Je sais pas si t'as vu ça, toi, Mathieu.
Alors, Dungeon Legends. J'ai juste vu la boîte. Je me suis pas arrêté dessus.
Et alors Dungeon Legends, on est sur un jeu de plateau coopératif avec une vraie composante de tower defense. Enfin, l'idée, c'est qu'il y a des vagues d'ennemis qui vont avancer vers notre château et on doit le défendre avec un soupçon de deck building. Alors, c'est pas le cœur du jeu, mais on va jouer nos actions grâce à nos cartes pour se déplacer, combattre, se défendre. Et à chaque fois qu'on va réussir à vaincre un monstre, en général, on aura une récompense qui sera d'acquérir une carte. Donc, ça permet comme ça d'améliorer son personnage tout au long des parties. Dungeon Legends, tu vas avoir aussi un côté, t'as des lieux que tu vas pouvoir activer. Donc il y a une vraie stratégie sur qui va où, pour défendre contre quel monstre, pour activer quel lieu, parce qu'on va aussi avoir des quêtes à résoudre. En termes d'édition, c'est assez chouette, le matériel est très joli, et on va voir plein de scénarios dans la boîte qui vont proposer des mises en scène et des règles différentes à chaque fois. Pour moi, la grande force de Dungeon Legends, ce serait de vouloir un peu un jeu de plateau comme ça, d'aventure léger, pour faire entre adultes sans se prendre la tête, mais aussi pour pouvoir jouer avec les plus jeunes.
Ouais.
Je pense qu'il a été vraiment pensé comme une œuvre familiale, et ça permet d'initier je pense des pré-ados ou même voir des plus jeunes, un petit peu un soupçon de deck building et un jeu d'aventure de stratégie coopérative.
Dernière chose, Jonathan, je vais te demander qu'est-ce que tu as pensé de L'As d'Or. Alors, est-ce que tu valides les choix du jury? Si tu avais été dans le jury, t'aurais fait-tu les mêmes choix?
Non, alors si j'avais été dans le jury, j'aurais pas fait les mêmes choix. Après, je pense que j'ai pas validé ou invalidé leurs choix. Je le trouve pas non plus... ça me choque pas, je veux dire... quand je vois Odin... nous, c'est pas un jeu qu'on a forcément beaucoup mis en avant en boutique, ça nous a pas beaucoup parlé.
Ouais.
Mais je constate quand même qu'il y a plein de gens à qui ça parle, il y a plein de gens qui sont venus l'acheter parce qu'ils y avaient joué, que ça les avait amusés, qui pouvaient jouer avec des gens de manière simple, avec des règles légères.
Ouais.
Donc je comprends totalement le choix. Même pareil, Behind, j'étais assez surpris aussi. Nous, Behind, c'est un jeu qu'on a énormément mis en avant parce qu'on a trouvé ça génial. Après, oui, c'est vrai que Harmonies, c'était tellement une évidence, et Captain Flip aussi, qu'on était très surpris. À la toute dernière seconde, j'imaginais qu'il nous ferait une surprise avec For a Crown.
Oui,
et c'était pas ça la surprise.
J'ai cru aussi à un moment, effectivement, j'ai cru. Et puis donc,
j'ai entendu tout le monde hurler. Je me suis dit, ah, il s'est passé un truc. C'est For a Crown qui a dû gagner, et c'était pas ça.
Enfin, donc voilà, de toute façon, hein, c'est un jury, hein, donc ils décident entre eux, et puis c'est que du jeu de société, donc arrêtez tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça ne sert strictement à rien.
Et c'est vrai qu'en boutique, moi, c'est trois jeux sur lesquels j'ai que eu d'excellents retours, même Kutnahora, Moi, je sais que voilà, il y a plein de gens qui jouent à des jeux de gestion depuis même, je dirais, des décennies. Voilà, qui sont nos clients réguliers, qui passent de temps en temps, et c'est rare qu'ils me fassent des retours aussi positifs sur un jeu de gestion. Donc c'est que je pense que le choix n'est pas non plus à côté de la plaque.
En tout cas, c'est la première année où j'ai zéro bon pronostic. Hein, donc voilà, c'était...
Je pense que tu ne dois pas être le seul.
Et je pense que je ne suis pas le seul non plus, effectivement. Eh ben, merci beaucoup Jonathan, on se retrouve mardi prochain pour un nouveau Quoi de Neuf dans la boutique.
Merci Mathieu, belle semaine à tous.
Salut. Voilà les amis, c'est Ludique, c'est terminé. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de C'est Ludique. Passez une excellente journée sur Millennium. Et puis moi, je vous retrouve bien entendu avec Greg dès 7h pour Miltonic. Salut.